parti.
Et nous sommes le 30 décembre 2021. Tout de suite, les titres de votre journal local qui sera présenté par Christine Roth. Bonjour Christine.
Bonjour Béni, bonjour à tous. Nous parlerons des cas importés, de variants Omicron qui augmentent. Puis nous écouterons le haut commissaire qui appelle à la vigilance à l'approche du réveillon. Et enfin, nous parlerons du bras de fer de l'électricité qui continue aux Marquises.
Et les cas d'Omicron importés, ce variant ne fait qu'augmenter.
Le nombre de cas importés de variant Omicron est en effet en augmentation. Au Fénois, 77 nouveaux cas recensés la semaine dernière et 4 à 6 cas locaux sont suspectés sur le territoire. Le niveau d'alerte épidémiologique repasse donc au stade 2. Pour Henri-Pierre Mallet de la cellule Covid, tout l'enjeu est maintenant d'arriver à le contenir pour ne pas vivre la même situation qu'en métropole où l'épidémie se propage à grande vitesse.
On a toutes les raisons de croire que ça va être la même chose, effectivement. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Là, cette semaine, on voit qu'il n'y a pas eu de propagation massive dans la population. Beaucoup d'importés, mais pas encore de transmission importante locale. Il y a toutes les chances, malheureusement, que ça devienne comme dans les autres pays. Alors, la petite différence, peut-être, c'est qu'on a déjà passé, nous, notre vague de Delta, ce qui n'était pas le cas dans d'autres pays. Qu'on a une structure de population un petit peu plus jeune. Donc, ça ne sera peut-être pas exactement la même situation que dans d'autres pays. Malheureusement, ça risque quand même d'être assez massif.
La surveillance est donc accrue du côté de la plateforme Covid, où les chiffres sont suivis quotidiennement. Aucun cas en réanimation et 4 hospitalisations pour Covid long au Taonnet, d'après le bulletin publié hier par la direction de la santé. Point positif, le variant Omicron ne semble pas aussi contagieux que le Delta, comme le souligne le docteur Mallet au micro de Lucie Rabréau.
Nouvelle non pas pour rassurer, mais pour mettre en perspective, il semblerait quand même aujourd'hui que dans les pays même très affectés par le variant Omicron, les hospitalisations et décès soient bien moindres que dans les vagues précédentes. Donc on veut s'accrocher à cet espoir. Je pense qu'il est vrai. Encore une fois, compte tenu de l'état immunitaire global de la Polynésie, on peut espérer ne pas avoir les conséquences qu'on a eues lors de la vague précédente.
Il s'agit également de contenir le variant au niveau de l'aéroport, principale entrée sur le territoire. L'obligation vaccinale ne suffit pas à garantir que les personnes arrivant au Fénois sont négatives. Des tests sont donc imposés au départ et à l'arrivée. Il est demandé à tous les voyageurs de limiter leurs contacts et leurs déplacements en attendant le résultat du test RT-PCR pratiqué sur tous les prélèvements.
Et face à ce risque de rebond épidémique, le haut commissaire appelle à la vigilance.
Oui, et Dominique Saurin est bien placé pour savoir que le variant Omicron frappe à nos portes. Le haut commissaire a signé des arrêtés de placement à l'isolement de 8 passagers arrivés par le vol de ce matin. Il s'ajoute aux 6 arrivants touristes ou résidents de retour de vacances testés positifs avant leur sortie de l'aéroport cette semaine. Face à cette pression et malgré le renforcement des tests à l'entrée, difficile d'imaginer que la propagation ne va pas s'accélérer à l'intérieur du Fénois, d'où ce nouvel appel des autorités à se vacciner. Première et deuxième dose que 71% des Polynésiens de plus de 12 ans ont déjà reçue, mais aussi troisième dose pour tous les majeurs dès la réouverture des vaccinodromes. Car si la dangerosité d'Omicron est moindre, Dominique Saurin estime que sa contagiosité peut de nouveau mettre en difficulté les établissements hospitaliers. Écoutez.
Ça peut aller très très vite, donc il faut rester vigilant. C'est notre posture depuis le début avec le pays, avec le président Édouard Fritch. Nous l'avions dit d'ailleurs lors de nos dernières interventions, la vigilance est de mise. Il ne faut pas du tout désarmer nos dispositifs et au contraire, il va falloir renforcer nos moyens de protection.
De nouvelles règles sanitaires devraient être appliquées dès ce réveillon. Elles doivent être annoncées en fin de journée. En attendant, le haut commissaire appelle déjà à la prudence pour la Saint-Sylvestre, du point de vue sanitaire, en évitant les grands rassemblements et en pratiquant les gestes barrières, mais aussi du point de vue de la sécurité.
On parle beaucoup de crise sanitaire et on va en reparler, mais il faut faire très attention aussi en termes de, je pense à la sécurité routière. On a encore eu trop de morts cette année. 29 tués, aujourd'hui 29 tués. C'est autant que l'année dernière, autant que l'année d'avant. En dépit des périodes où il y a eu le couvre-feu, on a toujours autant de tués. C'est un nombre important eu égard au réseau routier que nous avons. Donc conseil de prudence, vraiment. Faire attention à la consommation d'alcool. Il y aura beaucoup de contrôles de gendarmerie, de police pour les fêtes de fin d'année.
Vous pourrez bien sûr retrouver les règles sanitaires du réveillon dès leur officialisation, ce sera sur notre site radio1.pf d'ici la fin de l'après-midi.
Et le bras de fer de l'électricité continue aux Marquises.
Et le compte à rebours continue de défiler. Les concessions d'électricité de trois îles des Marquises arrivent à leur terme demain à minuit. Malgré les procédures lancées par Nukuhiva, Hivaoa ou Wapo, les offres reçues n'ont pas convaincu, pas même celle d'EDT Engie qui candidatait à sa propre succession. Pour gagner du temps et relancer un appel d'offres mutualisé, les trois maires demandent à l'opérateur historique de reporter son départ à septembre. Mais son PDG le leur a répété en visioconférence hier. Sans visibilité, Engie n'a plus d'intérêt à continuer.
Pour financer la transition énergétique, le groupe Engie a mis sur la table 12 milliards de francs pacifiques pour les îles en appel d'offres actuelles. Avec une visibilité de 20 ans, ça nous permettait d'amortir et d'avoir un lissage en fait, de ces coûts d'investissement. Donc, dans ce cadre-là, on arrivait à la fois à répondre aux volontés des communes sans impacter de façon trop forte l'usager. Si maintenant on n'a pas de visibilité, on n'a que des échéances entre 3 et 9 mois, il n'y a pas d'investissement envisageable de toute façon et surtout, il y a un service qui va se dégrader. Donc aujourd'hui, on ne peut pas avoir comme fonds de gestion de l'électricité une incertitude comme celle qui existe aujourd'hui. Ça, c'est impossible.
François-Xavier de Froment, PDG d'EDT Engie, qui a donc confirmé au maire des Marquises que sa société préparait bien un transfert des concessions vers les communes le 1er janvier, ce qui implique pour celle-ci de reprendre une vingtaine d'employés, d'assumer la gestion du réseau, la maintenance des centrales ou les services administratifs qui vont avec. Elles n'y sont bien sûr pas préparées, mais pour EDT, hors de question d'être tenues pour responsables, les mairies étaient prévenues depuis de longs mois et ont attendu pour certaines jusqu'à la semaine dernière pour demander le report. Si les îles veulent qu'Engie reste, il leur suffit d'accepter une des offres compétitives qui leur a été proposée. Et si EDT hausse le ton, c'est peut-être parce qu'elle perd aussi en parallèle 4 de ses marchés aux îles sous le vent, sans même avoir négocié les offres déposées. Tumara, Taha, Taputapuatea et Wahine se sont en effet alliés pour reprendre leur réseau électrique elles-mêmes grâce à une société dédiée.
Aujourd'hui, on a à la fois des communes qui souhaitent reprendre en main leur gestion de l'électricité, ce qui est très bien, avec une volonté, en revanche, d'investissement massif dans la transition énergétique, ce qui est là encore une fois très bien, mais qui ne rend pas le prix de l'électricité comparable avec ce qui est pratiqué aujourd'hui. Et par-dessus, vous rajoutez une loi de péréquation qui a été voulue par le pays, qui est là encore est une bonne chose, mais qui ajoute une complexité d'interprétation des tarifs d'électricité, qui fait que, je pense, les Raromatei, notamment, ont jugé que les tarifs proposés par, en tout cas, Électricité de Polynésie dans le cadre de l'appel d'offres n'étaient pas suffisamment faibles pour pouvoir allouer le marché.
Beaucoup se posent la question de la capacité réelle des îles à assumer elles-mêmes la production et la distribution de l'électricité, mais les pertes de marché vont aussi entraîner des conséquences pour EDT Engie en termes de chiffre d'affaires, d'effectifs et d'économie d'échelle. Rien n'est pourtant joué, même aux Marquises, où les communes continuent de demander le report, mais s'interrogent pour certaines sur une attribution d'urgence de leur marché en toute fin d'année. Une nouvelle rencontre avec EDT est prévue vendredi, au dernier jour de la concession. Les Tavanas ne cachent pas leur inquiétude. Si aucun terrain d'entente n'est trouvé, ils pourraient dès la semaine prochaine faire face à des difficultés pour gérer le réseau.
Et une triste nouvelle du côté de Raiatea.
Le corps de l'agriculteur et pêcheur âgé de 63 ans qui avait disparu mardi en baie de Faharoa à Taputapuatea a été retrouvé sur le rivage aujourd'hui. D'après Polynésie la Première, l'homme aurait chuté de son embarcation en allant chercher des cocos emportés par la rivière. Après 3 jours de recherche, c'est un soulagement pour la famille, même si la veillée n'aura pas lieu. En raison de l'état du corps, les proches vont organiser l'enterrement aujourd'hui.
Et la formation à distance se développe en Polynésie.
Nous vous avions parlé de FENOA Compétences, un nouvel organisme animé par le Fonds paritaire de gestion, l'OPT et le syndicat de promotion des communes. L'idée, développer la formation à distance en Polynésie grâce au numérique et aux nouvelles technologies. FENOA Compétences a reçu hier, lors d'un conseil des ministres exceptionnel, une subvention de 23 millions de francs, de quoi faire avancer son projet, équiper les îles de salles d'apprentissage permettant de mener depuis Tahiti des sessions de formation interactives. Cela permettra d'éviter des déplacements et d'offrir à plus de travailleurs des qualifications auxquelles ils n'avaient jusque-là pas accès dans les archipels. Le système devrait être aussi utilisé à la presqu'île et servir à des formations internationales de plus haut niveau. Les premières sessions doivent avoir lieu en 2022. C'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. On passe à l'écoute de votre répondeur sur Radio 1 et Thierry FM.